bonheur dans tout ça? J'aime beaucoup un passage des propos sur le bonheur du philosophe Alain, un passage où il dit que les rois et les dieux s'ennuient parce que leur route est trop punie. Il écrit « Le bonheur suppose toujours quelque inquiétude, quelques passions, une pointe de douleur qui nous éveille à nous-mêmes. Lorsque l'on a les biens réels, on croit que tout est dit et l'on s'assied au lieu de courir. L'homme qui ne fait rien n'aime rien. Apportez-lui des bonheurs tout faits, il détourne la tête comme un malade. Le difficile est ce qui plaît. » Aussi, toutes les fois qu'il y a quelque obstacle sur la route, cela fouette le sang et ravive le feu. J'ai connu plus d'un roi. C'était de petits rois d'un petit royaume, rois dans leur famille, trop aimés, trop flattés, trop choyés, trop bien servis. Ils n'avaient point le temps de désirer. Des yeux attentifs lisaient dans leurs pensées. Eh bien, ces petits Jupiter voulaient malgré tout lancer la foudre. Ils inventaient des obstacles. Ils se forgeaient des désirs capricieux, voulaient à tout prix vouloir et tombaient de l'ennui dans l'extravagance. Être heureux, pour le philosophe, c'est quelque chose que l'on a en soi, mais que l'on doit toujours aller chercher. Et quelque part, tant mieux si le bonheur, on ne le trouve pas d'emblée, surtout quand on est un peu trop gâté.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quoi est fait le bonheur pour mon invité d'aujourd'hui? Chanteuse et musicienne précoce et inclassable, du haut de ses 19 ans, elle a déjà vendu plus de 18 millions d'albums, raflé 6 Grammy Awards, écrit quand même la BO d'un James Bond, et elle cumule près de 90 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Son deuxième opus, Happier Than Ever, est sorti le mois dernier, lucide, éclectique, diablement libre. Elle nous accorde sa seule et unique interview à la radio en France, on en est très heureux. Bonjour Billie Eilish.
Hi, how are you?
Very good, thank you. Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui? Plus heureuse que jamais, comme le titre de votre album le laisse suggérer?
It's also kind of a like sarcastic
title. C'est un titre qui est un petit peu ironique aussi. Il veut dire plein de choses à la fois. Le bonheur, c'est vraiment compliqué et c'est pas défini pour toujours. Les choses changent. Soi-même, on change au fil du temps. C'est comme ça que ça marche. Donc, je pense que le bonheur, en fait, c'est peut-être se dire, bah voilà, être heureux, ça reste ma priorité. Être heureux, c'est faire en sorte que les choses dans votre vie, eh ben, elles vont vous permettre d'être le plus heureux possible. Et sinon, il faut tout changer.
Oui, est-ce que vous diriez précisément que le bonheur, c'est toujours quelque chose de fragile, en fin de compte?
It is. It's very fragile.
C'est très fragile, le bonheur. Et c'est très précieux aussi. C'est quelque chose de difficile à atteindre. Et c'est comme le titre de l'album, je vous le disais, il est un petit peu ironique. Il faut prendre un petit peu de recul parfois. La vérité, c'est que, en fait, ça dépend de l'interprétation de chacun. Il marche de différentes manières, ce titre.
Oui, parce qu'on ne peut pas penser à la question du bonheur avec vous sans penser ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce monde dans lequel nous vivons, plus incertain, plus menaçant, plus angoissant que jamais. Vos chansons et vos vidéos s'en font d'ailleurs l'écho. Sur la pochette de votre disque, il y a des larmes qui coulent. Pour qui et pourquoi arrive-t-il qu'elles coulent, vos larmes?
You know, I cry about
anything. En fait, moi, je pleure à peu près pour n'importe quoi.
We just sometimes need a good cry.
Je pense que parfois on a juste besoin de pleurer un bon coup.
Et
j'oublie ça trop souvent, je crois. Et puis tout à coup, je me dis, mais tiens, je me sens bizarre, j'ai accumulé trop d'émotions et je me dis, mais je me sens pas bien, trop dans l'affect. Et puis je me dis, bah, c'est parce que j'ai pas pleuré, tout simplement. Je pense que c'est vraiment nécessaire de pleurer. Ça permet de, je sais pas comment dire, réérer quelque chose, réorganiser le corps peut-être. C'est une bonne chose de pleurer. Moi, je pleure pour à peu près tout et n'importe quoi. Des petites choses toutes simples. Bon, il y a quand même la nourriture. Ça, c'est ce qui me fait pleurer. Par exemple, si j'attends un plat, je me dis, il va être comme ci ou comme ça et qu'il n'est pas comme je l'attendais. Là, je suis vraiment hyper, hyper déçue.
Et quelle consolation vous apporte la musique, Billie Eilish?
La musique, c'est peut-être la plus grande consolation du monde. C'est c'est vraiment le seul réconfort possible. Enfin, l'art, c'est une consolation, en fait. Donc, moi, il y a par exemple des chansons que je vais passer pour moi-même quand je suis toute seule, quand je suis un peu dépassée, ou j'ai mal au ventre, ou je suis anxieuse, ou je me sens malade. Il y a des chansons qui vraiment physiquement me font sentir mieux. Et c'est vrai ce que je vous dis, hein, et la musique, c'est tellement puissant, même physiquement. La musique, c'est quelque chose de naturel. Moi, j'écoute la musique depuis que je suis petite. Ça m'a toujours fait ça. Ça a toujours cet effet sur moi. Elle me console, elle me réconforte. Et puis, elle m'aide à ressentir les choses. Pas simplement pour vous consoler, elle vous fait ressentir la joie, la tristesse. Elle sert à ça, la musique. C'est très puissant. Donc, je suis vraiment très contente et puis très fière aussi de pouvoir faire ça aussi pour les autres.
Alors, je propose qu'on se console un peu tous ensemble au son et au rythme de votre voix, Billie Eilish, en quelques titres, bah c'est d'abord ça. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Et puis c'est une BO de James Bond quand même. All the good girls go to hell, 'cause he even got herself as enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Et puis une dernière, peut-être celle par quoi tout commence et qui s'appelle Ocean Eyes. Ocean Eyes, c'était il y a 6 ans, Billie Eilish, un titre devenu viral qui vous a fait sortir de l'anonymat du jour au lendemain et que vous avez enregistré avec votre frère, chez vos parents, dans votre chambre d'adolescente. Ce titre qui a tout changé pour vous, hein, de quoi il est né? Est-ce que vous vous souvenez?
I do remember.
Oui, je me souviens. J'avais 13 ans, mon frère avait 17 ans. Et en 2015, hein, je crois. Et moi, j'ai toujours aimé chanter toute ma vie, même chose pour mon frère. On faisait de la musique ensemble, il apprenait l'autoproduction. Moi, j'étais un peu dans le même esprit à ce moment-là. Et on, au lieu de travailler chacun de son côté, on s'est dit tout à coup, c'est arrivé comme ça, on s'est dit, bah tiens, on n'a qu'à essayer de faire quelque chose ensemble, on va voir ce qui se passe. Hein, on y va. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait quelques titres, et puis on a fait Ocean Eyes, et puis après les choses se sont développées, on a commencé à travailler en collaboration ensemble, et ça s'est passé tellement bien, tellement naturellement.
Il y a cette collaboration, puis il y avait aussi l'envie de faire danser. Dans quelle mesure la bonne chanson, c'est toujours celle qui fait danser pour vous, Billie?
Ben en fait, c'est compliqué parce que parfois un tempo lent peut donner quand même envie de danser, vous inspirer. Et je dis ça, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on a forcément besoin d'un tempo rapide pour danser. Ça peut être n'importe quelle chanson. Et moi, j'ai toujours eu le sentiment que la musique que je préfère, c'est celle qui me donne envie de bouger. C'est celle qui me donne envie de ressentir dans mon corps. Ça ne veut pas dire que les autres choses sont pas bonnes pour autant. Mais ce que je dis, c'est que pour moi, ce qui est mieux, c'est ce qui me donne vraiment envie de m'impliquer physiquement.
Mais alors, comment on fait justement pour faire danser, pour faire bouger avec une chanson? Comment vous vous y prenez? Vous, ça tient à quoi? À un rythme? À une mélodie? À un son?
Mais en fait, tout compte. Tout est important.
Et
quand on écrit une chanson, c'est très important. Il y a les paroles, les accords, la production, les instruments, le tempo, tout compte pour faire une chanson.
Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre tête, quand vous dansez Billie Eilish? Vous qui, plus jeune, souhaitiez devenir danseuse.
Je me suis toujours sentie très libérée par la danse. Depuis que je suis petite, bouger, ça a toujours été un moyen d'expression important, sans avoir besoin de parler, envie d'exprimer vraiment avec ma présence physique ce que je ressens. Vous savez, par exemple, quand vous êtes en colère, vous disputez avec quelqu'un, vous allez taper sur la table ou trépigner, tout ça, vous le faites avec votre corps. Pourquoi? Parce que vous ressentez mieux votre émotion. C'est beaucoup mieux que simplement des mots. Et la danse, après tout, c'est ça, multiplié par des millions. On exprime avec son corps et on se sent tellement plus puissant qu'avec des mots.
Celle qui ne nous fait pas du tout danser dans cette émission, mais qui par contre n'en finit pas de nous faire tourner en bourrique, vous la connaissez, Billie, c'est la culture. Et son actualité irrécupérable, que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 31 août?
Il est vrai que dans les secteurs culturels, pour l'instant, le secteur du cinéma est le plus impacté. L'État sera toujours présent.
Fini le quoi qu'il en coûte, place aux sur-mesures. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a déclaré hier que l'État continuerait d'aider les secteurs culturels en difficulté, notamment celui du 7e art qui a enregistré cet été un manque à gagner de près de 50 millions d'euros, selon la Fédération nationale des cinémas français. La ministre a aussi annoncé le lancement d'un programme de commande publique dans le secteur du photojournalisme, doté de 5 millions d'euros et piloté par la Bibliothèque nationale de France. Pas de rentrée sans la reine Mylène. Après avoir enchanté le jury du Festival de Cannes de sa présence, la divine Mylène Farmer est de retour au top de la pop. Son best-of Plus Grandir vient d'entrer directement à la première place du top album. Et comme le notent nos collègues de Chart in France, elle décroche par la même occasion un nouveau record, celui de la première chanteuse française à avoir classé au moins un disque à la première place des charts sur 5 décennies différentes. De quoi galvaniser les foules alors que la guichetterie de sa prochaine tournée des stades ouvre le 1er octobre prochain. Game over ou presque, la Chine a annoncé hier qu'elle allait interdire aux jeunes de moins de 18 ans de jouer plus de 3 heures par semaine aux jeux vidéo en ligne, soit une heure par soir les vendredis, samedis et dimanches. Des gamers contraints de se connecter avec une pièce d'identité. Ce renforcement de la législation a pour but de lutter contre l'addiction des jeunes qui aurait de nombreuses conséquences négatives comme la baisse de la vision, le manque d'activité physique ou la chute des résultats scolaires, et puis apparemment aussi de réduire un petit peu encore nos libertés au point où on en est.
Et là, je vais entrer dans ce qu'on appelle le salon vert, qui était autrefois la salle à manger de l'impératrice Eugénie.
À qui le tour, Stéphane? Comme chaque année, depuis 4 ans, la mission Patrimoine, pilotée par l'inénarrable Stéphane Bern, a dévoilé hier 100 nouveaux sites qui bénéficieront d'aides financières grâce aux fonds récoltés par le loto du patrimoine. En tout, 96 en métropole, 4 en outre-mer, parmi lesquels on compte notamment une ancienne tannerie dans le Rhône, un couvent en Corse, une ancienne maternité en Guyane et toujours beaucoup de châteaux et d'églises. Depuis le début de l'opération en 2018, près de 627 sites en péril ont pu profiter d'aides et 297 ont déjà été sauvés. Olé. La chanteuse américaine Billie Eilish, invitée exceptionnelle de Boomerang ce matin pour notre rentrée et pour son deuxième album Happier Than Ever, un disque où vous interrogez, Billie, notre époque et notamment, évidemment, l'effet des réseaux sociaux sur notre rapport au monde, aux autres, à nous-mêmes. Ces réseaux sociaux, quels lieux sont-ils aujourd'hui pour vous?
C'est pas vraiment génial. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est devenu quelque chose de plutôt assez négatif dans ma vie, et pas simplement parce qu'on parle de moi, qu'on dit des choses sur moi dans les réseaux. globalement, je dirais que c'est pas un endroit très fréquentable pour mon cerveau, pour personne d'ailleurs, mais enfin, en même temps, j'aime bien regarder les vidéos, j'aime bien regarder les talents, ce que les gens racontent de leur vie, et j'aime bien ça aussi. Je dirais juste que globalement, c'est plutôt négatif quand même.
C'est vrai que ce sont des lieux où on se rend visible, où on s'expose, où on se fabrique une image aussi. Quelle relation est-ce que vous entretenez, vous, avec votre image ?
C'est difficile parce que c'est impossible de se voir avec le regard des autres. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est vu comme ci ou comme ça et que personne n'est d'accord avec ça. Et c'est pour ça qu'on manque de confiance parfois. C'est parce que justement, on ne sait pas comment on est perçu, précisément parce qu'on ne peut pas se regarder soi dans la vraie vie, en action. Bon, il y a les miroirs, mais les miroirs, c'est pas ce que voient non plus les autres, c'est ce que nous on voit dans le miroir. Et effectivement, c'est déjà assez difficile d'être quelqu'un, de savoir qui on est, et si en plus il faut tenir compte en plus de ce que pensent les autres, sans parler de centaines de millions de personnes qui vous regardent dans le monde entier, c'est vraiment difficile si vous voulez d'avoir une juste image.
C'est très intéressant, Billie Eilish, parce que vous avez choisi dès vos débuts de ne pas surexposer votre corps, justement, dans une industrie musicale qui pourtant a toujours misé sur la sexualisation des corps et particulièrement celui des jeunes femmes. Quelle était votre intention dès le départ ? Quel message est-ce que vous nous faisiez passer ?
J'ai rien voulu faire en particulier, c'est juste que j'avais pas forcément envie qu'on voit mon corps, j'étais pas très à l'aise dans mon corps. C'est encore le cas, sauf que maintenant je sais que j'ai la possibilité de faire les choses comme je le souhaite. À l'époque, je me sentais pas bien dans ma peau et c'était la raison principale pour ne pas montrer mon corps, alors qu'aujourd'hui c'est différent. Je sais que j'ai la possibilité et le droit de faire ce que je veux de mon corps, de mes vêtements.
Au fond, c'est quoi un corps pour vous, Billie Eilish ?
Le corps, il est là pour manger, digérer, pichier. Hein. Il est là pour ça, le corps. Il est là pour que notre squelette tienne ensemble. Le corps, il est là pour ça, pour qu'on reste vivant, pour qu'on respire. Après tout, et d'ailleurs le corps, il est parfait quoi qu'il arrive, il n'y a jamais de mauvais corps. Le corps, il est toujours comme il devrait être.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à contrôler, son propre corps ?
C'est difficile, parce qu'on a tous une relation difficile avec notre corps, et ce n'est pas facile hein, de se sentir connecté et fier éventuellement de son corps. C'est vraiment difficile. Et moi, j'admire tous ceux qui ont confiance, qui se sentent à l'aise dans leur corps, parce que vraiment, c'est pas mon cas et j'adorerais. Et la plupart des gens sont comme moi, je crois. Par contre, ce qui est très dommage, je trouve, c'est que le corps soit vraiment le problème numéro un pour tout le monde. On s'inquiète de son corps et ça a été mon cas toute ma vie et ça m'attriste vraiment. Parce que quand même, c'est ce que je mange, c'est ce que je respire, c'est ce que je digère, c'est ça le corps. Donc c'est pas tellement important et pourtant c'est important.
Au fond, qu'est-ce que vous avez l'impression de vraiment pouvoir contrôler aujourd'hui ?
I don't know what I control.
Ah, je sais pas ce que je contrôle. J'imagine, vraiment, je sais pas. J'ai cette carrière où il y a, bien sûr, il y a du contrôle. Mais en même temps, je suis une marionnette. Donc, c'est pas vraiment moi qui dirige les choses. Je sais pas si vous comprenez. Enfin, je contrôle en un sens, mais pas autant que vous pourriez l'imaginer. Donc, je sais pas.
Et quand est-ce que vous le perdez, le contrôle? Quand est-ce que vous vous autorisez à le perdre?
When I get too wrapped up in what everyone else.
En fait, je perds le contrôle quand je me laisse impressionner par ce que disent les gens, par ce que pensent les gens. Vraiment, ça m'atteint vraiment profondément. Et c'est horrible. Je sais pas, j'essaie vraiment de travailler sur tout ça, pas faire attention à ce que disent les gens, à ce qu'ils pensent, mais c'est difficile vraiment.
Et quand vous chantez, est-ce que vous êtes dans le contrôle ou dans le lâcher prise?
I do both.
Ben les deux à la fois, c'est-à-dire que quand on chante, on c'est puissant, mais on doit contrôler, maîtriser sa voix. Et en même temps, on lâche prise, on laisse sortir les choses aussi qui sont à l'intérieur, donc c'est un mélange de plein de choses.
On parlait de corps à l'instant. Chanter, quelle expérience physique est-ce que c'est pour vous ?
It's
Chanter, c'est une libération, c'est quelque chose de cathartique et c'est thérapeutique et ça me détend, j'adore chanter. Cela m'apaise, je me sens calme.
On va en reparler évidemment de corps, de lâcher prise, mais aussi de voix, juste après Happier Than Ever, qui donne son titre à votre deuxième album. Vous êtes sur France Inter avec Billie Eilish. Vous écoutez Boomerang, si c'est pas le bonheur. Ça y ressemble.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. You call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city, and I
C'est-à-dire qu'on a envie d'en être, hein, de faire partie du club, ou alors qu'elle nous prenne sous son aile. Elle a le cheveu blond platine, mais pas bon blatine, elle dégage une sagesse prophétique, magique, quasi biblique quelque part, entre Blondie, Grand-mère Feuillage et Harry Potter, la chanteuse américaine Billie Eilish, invitée exceptionnelle de Boomerang pour ce deuxième album Happier Than Ever. Et ce qui frappe à l'écoute, Billie, c'est évidemment votre voix, tantôt profonde, tantôt cristalline, la voix. Quel instrument est-ce que c'est pour vous?
Je ne sais pas.
La voix, elle peut être tous les instruments. On peut l'utiliser pour chanter. On peut vraiment faire de la musique avec sa voix. C'est tellement puissant, une voix, même si vous pensez que vous n'êtes pas bon chanteur, mais on peut faire tellement de choses avec sa voix.
Même quand on chante faux comme moi. Votre voix, particulièrement sur ce disque, en quoi l'avez-vous vu évoluer? En quoi a-t-elle changé? En quoi diriez-vous peut-être que vous l'avez fait progresser?
En fait, j'ai pas fait grand chose en particulier ou exprès, c'est-à-dire que j'ai grandi et la voix, elle change. Quand on grandit, on voit par exemple les hommes, ils passent des aigus aux graves au fil du temps. C'est la même chose pour moi. Avec la puberté, on grandit, on devient adulte, la voix évolue. Donc je dirais, ce qui s'est passé avec ma voix, c'est principalement que j'ai grandi et je me suis sentie plus forte, plus confiante.
Comment est-ce que vous la travaillez?
I don't know, really.
Mais je ne sais pas vraiment. Je peux pas vraiment dire que j'y pense ou beaucoup, en tout cas, c'est vraiment bizarre. Je me vois pas comme une chanteuse, même si j'adore chanter. Donc, quand les gens me disent, ah, ben, il faudrait peut-être que tu commences à travailler ta voix davantage, je me dis, pourquoi? Oui, je chante, mais oui, je chante, c'est vrai.
Vous voulez dire que vous n'avez jamais compris que vous aviez une voix?
Mais non, j'ai compris. C'est juste que je me voyais pas comme une chanteuse. C'est-à-dire que j'adore chanter, j'adore écrire des chansons, j'adore chanter, être sur scène, mais j'ai peut-être le syndrome de l'imposture un petit peu, quoi. C'est juste que j'ai du mal à me dire que je suis une chanteuse, quoi.
Quelle heure de chanson est-ce que vous chantiez quand vous étiez petite, Billie Eilish, vous vous souvenez?
Oui, je chantais beaucoup de Beatles, de Britney Spears, de NSYNC, de Justin Bieber aussi. Et plein de trucs comme ça. Je chantais en permanence. Donc, je ne sais pas.
Et à la chorale, sur quels airs est-ce que vous exerciez votre voix?
On chantait énormément à la chorale. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'en fait, on chantait beaucoup en langues étrangères. On chantait dans d'autres langues. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai appris beaucoup sur les langues étrangères. On chantait beaucoup en français, en danois.
Mais qu'est-ce que vous chantiez en français?
Well, I was in Carmen.
J'ai eu un rôle dans Carmen, l'opéra, quand j'étais petite. J'avais le rôle d'un petit garçon qui défile dans la rue, je crois, avec un bâton en main et bon, défilait. C'était ça ce que je disais. J'adorais. Vraiment, c'est un de mes meilleurs souvenirs d'un moment phare de ma vie, hein, Carmen.
Cette chorale, quelle école est-ce que ça a été pour vous? Qu'est-ce que vous y avez appris techniquement, humainement? Il faut nous raconter.
J'ai appris beaucoup de choses, tout simplement apprendre à respirer, faire attention à sa voix, pas trop pousser sa voix, ne pas l'abîmer, ne pas la détruire, ne pas l'endommager. J'ai appris aussi le solfège aussi, plein de choses sur la musique de manière générale et sur les pièces pour orchestre, le piano, etc. Tout ça.
Alors l'école, il faut le raconter, vous n'y avez pas été, vos parents ont fait le choix de vous scolariser à la maison. Cette éducation éloignée des conventions, du conformisme, de la pression, de l'esprit de compétition aussi, que vous a-t-elle apporté en fin de compte?
Elle m'a apporté beaucoup de choses. Elle m'a appris des choses sur le tas, c'est-à-dire que j'apprenais auprès de mes parents, j'ai appris la vie, on faisait des choses, les parents disaient, bah, tiens, quand tu fais ça, t'as qu'à faire ça, ou quand tu vois ça, bah, ça, tu sais, c'est ça. C'était pas un carcan très strict et hostile, au contraire, c'était très chaleureux, très bienveillant, j'ai jamais eu peur de poser des questions, de dire, ah, c'est quoi? On m'a jamais dit, ah, mais t'es bête, tu sais pas ce que c'est. Je posais des questions, et encore aujourd'hui, je suis contente de ça et très fière parce que encore aujourd'hui, je pose des questions, j'ose poser des questions alors que les gens auraient souvent honte. Je dis mais c'est quoi ça et pourquoi ça? C'est des choses que peut-être je devrais savoir, mais après tout, je ne sais pas et ça pose pas de problème.
C'est intéressant ce qu'on comprend quand même dans ce que vous dites, dans ce que vous nous racontez, c'est l'importance cruciale des espaces que sont la maison et la famille, des espaces sécures. Dans quel genre de famille est-ce que vous avez grandi en fin de compte?
J'ai grandi dans une famille assez dingo, assez marrante. Et tout le monde se mêle de tout le monde. Il n'y a pas vraiment de délimitation des espaces personnels chez nous. Tout le monde passe chez tout le monde. Avec le monde extérieur, on a les limites. Mais dans la famille, tout le monde entre dans la chambre de tout le monde.
Mais c'est une famille qui n'a jamais essayé de tirer parti de vos succès. C'est une famille bienveillante. Diriez-vous que c'est quelque chose de rare, particulièrement pour des artistes qui, comme vous, réussissent très jeunes?
Ouais. Je sais que j'ai une chance absolument incroyable d'avoir une famille comme la mienne, des parents qui ont été là à mes côtés, qui m'ont soutenue et qui n'ont pas pété les plombs quand j'ai commencé à être le centre de l'attention générale. Donc je peux vous dire que je suis reconnaissante et je le serai toute ma vie. Ils sont là, mon père, ma mère, mon frère aussi. C'est vraiment un privilège et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça.
Évidemment, on pense tout de suite à Britney Spears, que vous avez mentionné et qui jusqu'à récemment était encore sous la tutelle de son père. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le destin de Britney Spears?
She's just the coolest of the cool.
C'est vraiment une fille géniale. Elle a inspiré tellement de gens, tellement de musique, styles musicaux, la danse aussi, sa présence sur scène, son attitude. Enfin, je sais pas, vraiment, moi j'en parle, j'ai la chair de poule, hein, rien qu'à vous en parler, moi je l'adore. C'est vraiment une fille adorable, vraiment, j'adore.
C'est aussi quelqu'un qui a été sacrifié sur l'autel de la culture, de la célébrité, des médias, comme ça a été le cas pour nombre de jeunes femmes dans cette industrie.
Oh yeah, it's really bad.
Oh ça oui, c'est vraiment moche. Je peux pas vous dire à quel point ça me vraiment ça me dérange de voir tout ça, ce qu'on doit traverser, ce qu'on a traversé. C'est un peu mieux maintenant. Les gens sont peut-être plus un petit peu plus conscients, mais il y a encore des choses qui se passent. Beaucoup. Et on est des marionnettes. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe autour de moi qui m'a vraiment soutenue, qui n'avait pas envie de m'exposer, de m'exploiter.
Être libre, au fond, ça tient à quoi ?
God, I don't know.
Ah, ça, je ne sais pas.
Je dirais qu'un
bon indicateur du degré de liberté, c'est quand on ne dit pas oui à tout et à n'importe quoi parce qu'on va bien gagner sa vie ou parce que ça va permettre une connexion avec un tel. C'est pas ça. La liberté, c'est se dire voilà comment je sens les choses, vraiment authentiquement. Voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Et si vous n'aimez pas les choses, il ne faut pas y aller. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de perdre son temps, de perdre sa vie en faisant des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et il n'est jamais trop tard pour faire les choses. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris et qu'il ne faut pas oublier. Je l'ai oublié parfois. Les gens se disent, oh là là, j'ai raté le coche, c'est trop tard, je ne peux plus faire ça, c'est trop tard dans ma vie. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On peut faire tout, à tout moment, aussi tard que possible. C'est toujours possible.
Merci. Billie Eilish, d'être venue faire un tour dans cette émission.
Of course, thank you for having me.
Merci également à votre interprète ce matin, la très Billie Friendly, Hélène Joguet. Je rappelle que Happier Than Ever vient de paraître et que c'est une pépite. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça quand même. Sur France Inter et tout de suite les médias avec Sonia De Villers, l'Instant M.